Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Il est 18h05, temps universel, l'heure d'À votre avis, l'émission qui donne la parole aux auditeurs. Ce soir, nous parlons de la gestion des catastrophes naturelles en Afrique. Au Mozambique et au Zimbabwe, des milliers de personnes sont réfugiées sur des arbres et des toits après le passage du cyclone Idai. Inondations, sécheresses, désertification, quelles sont les initiatives prises dans vos pays pour réduire les risques de catastrophes? Et quelles mesures suggériez-vous pour venir en aide aux populations sinistrées? Nous attendons vos commentaires. Pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VO Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Et pour les autres, vous pouvez participer en direct au 001 202 205 26 33. Premier auditeur ce soir, il s'agit de Vincent Seonou qui est à Abomey-Calvi au Bénin. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir, chers journalistes. Merci de votre bien professionnel.
Alors, dites-nous, Vincent, tout simplement, hein, quel est le tableau au lendemain d'une catastrophe naturelle dans votre pays? À quoi ça ressemble?
Ça ressemble vraiment à un désastre sur le plan environnemental. Vous voyez, il y a, quand on parle de l'inondation, plus de 200 000 personnes ont chaque année perdent leur vie dans les rivières, dans les affluents, dans les bas-fonds chaque année. Ce qui endommage aussi la population et aussi la démographie béninoise. Et quand on parle de la sécheresse, vraiment, on n'en parle plus. Le Nord, par exemple, il n'y a pas la pluie au Nord chaque année. C'est ce qu'on constate, et le climat est toujours comme ça. La chaleur, on n'en parle plus actuellement au Nord. Quand vous prenez les plateaux de Parakou, de Kandi et ce qu'on sort, actuellement, ça ne va plus. Ça ne va pas actuellement même. Vous pouvez buvez plus de 50 eaux de fraîche. Mais vous, vraiment, ça ne va même pas vous satisfaire. Ensuite, par exemple, vraiment, la fossée des mers, c'est trop décevante. Actuellement, rien ne va pour la fossée des mers. Quand on parle de la mer, de la sortie du mer, vraiment, rien ne marche actuellement au Bénin sur le plan environnemental. Bien sûr qu'il y a un ministère qui s'en charge de tous ces affaires, mais pourtant, rien n'est fait jusqu'à ce moment.
D'accord. Alors, vous décrivez des phénomènes qui finalement arrivent de façon récurrente. Hein, j'imagine, à la même saison, il y a les pluies, à la même saison, il y a la sécheresse. Y a-t-il des mesures qui sont prises en amont, avant que la catastrophe arrive, aussi bien par le gouvernement, mais aussi par les populations elles-mêmes, qui peuvent se protéger aussi?
Madame la journaliste, vous savez, il y a après, au lendemain de ces dégâts, les ministres en charge de ces institutions et autres, et le chef de l'État, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le chef d'État actuel, les chefs, les régimes par sang, et tous prennent des décisions, font des conférences de presse, mais qui n'aboutissent jamais, et je ne vois même pas les actions sur le terrain concernant la sécheresse et aussi les inondations. Je ne vois rien. Là, au contenant l'inondation, il dit simplement de céder un peu le passage au bord des rivières pour, c'est-à-dire nous, les riverains, de quitter simplement. Sinon, eux aussi, à l'état-là, ils envoient seulement les forces de sécurité pour sécuriser la zone. Mais après tout, ils ne font rien. D'accord. Ils ne font rien sur ces deux plans. Mais compte tenu de la poussée des mers, ils envoient actuellement des granites pour pouvoir faire quelque chose pour empêcher la poussée aussi, l'arrivée de la mer
Merci beaucoup Vincent. Malheureusement, je vais vous couper la parole parce qu'il faudrait quand même qu'on laisse d'autres auditeurs parler. On a au bout du fil Haruna Baldé qui est à Dakar au Sénégal. Bonsoir Haruna.
Oui, bonsoir bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, des mesures préventives sont-elles prises avant que les catastrophes n'arrivent chez vous?
Alors, c'est comme toujours, bon, quasi totalité en Afrique, c'est médecin après la mort, hein, c'est toujours comme ça dans tous les pays, y compris dans mon pays Sénégal. Bon, aujourd'hui l'Occident menace surtout la capitale Sénégal, Dakar, là où je suis actuellement. Chaque année, l'Occident avance et il n'y a pas de mesures qui ont été pour pallier à ce phénomène, pour anticiper les dégâts qui vont y advenir. Mais bon, on reste là, bon, si les dégâts viennent après, les gens, comme disait mon prédécesseur, ils tiennent des points de presse par-ci, par-là, ouais. Ça, le problème. Pour moi, il faut que les gens prennent d'abord des solutions anticipatives. C'est ça, la politique aussi, ça, c'est-à-dire, en résumé, c'est-à-dire être visionnaire en quelque sorte.
Et du coup, quelle initiative peut-être pourrait être prise plus précisément pour mieux se prémunir contre ces catastrophes? Est-ce que vous avez des suggestions?
Ah ouais, certainement, il y a beaucoup d'initiatives. Il faut d'abord créer une politique solide, en cas de dégâts, qu'on pourra secourir les sinistrés de manière aussi facile pour alléger, diminuer les pertes de vie humaine en quelque sorte. Comme ce qui s'est passé au Mozambique, ça aurait dû vraiment, je ne dirais pas éviter, mais s'il y avait vraiment les moyens nécessaires en place, on allait dire vraiment diminuer le nombre de morts en quelque sorte.
Merci beaucoup Haruna, qui était donc à Dakar au Sénégal. On part maintenant au Congo-Brazzaville. Jérémy Rodrigue Tiombinda, bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors, comment ça se passe dans votre pays au lendemain d'une catastrophe naturelle? Quel est le tableau?
Bon, en fait, en ce qui me concerne dans mon pays, bon, les catastrophes en fait naturelles sont tellement rares. Mais pour au moins en fait prévenir les catastrophes naturelles dans mon pays, les gens ne construisent pas plus près des eaux pour afin d'être à l'abri des inondations. Oui. Il y a aussi le projet de canalisation d'eau que l'État congolais en fait prévoit, mais à cause de la crise actuelle, ceci est parfois freiné.
D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Jérémy, lui, qui dit qu'il faudrait quand même, qu'il y a quand même la responsabilité quelque part des populations à ne pas se mettre près des cours d'eau. Prochain auditeur. Aboubacar Diakité, qui est à Bamako, au Mali. Bonsoir, Aboubacar.
Bonsoir, madame. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs de VOA.
Alors, Aboubacar, comment est-ce que les catastrophes naturelles sont gérées au Mali?
Oui, vous savez, madame, le conseil est très amer. Souvent, l'appel est lancé au niveau, effectivement, au niveau des autorités. Effectivement, il y a des populations qui sont au bord de fond, puisque c'est des passages, effectivement, de l'eau. Mais pour des raisons, effectivement, à travers des difficultés financières, les populations, effectivement, préfèrent s'en servir. Lorsque le dégât est là, c'est pas facile de gérer. Alors, comme la situation effectivement qui se passe maintenant en Mozambique ou ailleurs, je pense qu'effectivement que des mesures effectivement de prévention doivent être prises pour éviter ces dégâts-là. Parce que nous savons que effectivement lorsque ça se déclenche, effectivement c'est pas facile. Donc c'est effectivement aux populations effectivement d'être vigilantes puisque elles sont les premières victimes. Elle ne peut pas, effectivement, c'est vrai que le gouvernement est là, le gouvernement fait son mieux, mais il faut effectivement rester vigilant.
Merci beaucoup, Aboubacar Diakité du Mali. On peut maintenant passer la parole à Trésor Kazadi Royal, qui est dans le Kassai Oriental. Bonsoir, Trésor.
Oui, bonsoir, madame Morgane. Comment ça va?
Ça va très bien, merci, et vous?
Également aussi.
Bon, super. Alors, Trésor, comment est-ce que les catastrophes naturelles sont gérées dans votre pays et anticipées aussi? Est-ce qu'il y a une anticipation?
Ok, ça va. L'Afrique, premièrement, je parle de l'Afrique qui concerne l'Afrique.
Oui.
L'Afrique souffre des réchauffements climatiques. La plupart des présidents ne peuvent pas voir pour éviter cette catastrophe naturelle. Parce que si cela arrive, c'est perturber beaucoup de choses, maisons d'autrui, le bien-être des humains. Donc il faut éviter ça. D'une part, dans mon pays, là où je suis né, j'ai vu beaucoup de personnes couper des arbres en vendant aux autres pour fabriquer les braises. Donc, je vous assure clairement que cette situation vient à propos de pauvreté. Parce qu'envisager des tortures. À cet effet, je veux que le gouvernement congolais devrait être mise en œuvre cette catastrophe naturelle et pour pouvoir négocier avec le gouvernement américain pour trouver un accord climatique. Parce que les arbres nous aident beaucoup en expirant, en protégeant l'air, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas tout ça. Mais il faut d'abord, c'est pourquoi les géographes nous aident. Mieux, il y a un proverbe qui nous dit « mieux vaut prévenir que périr ». Parce qu'il faut d'abord prendre les mesures bien avant pour qu'on puisse intégrer tout ça, pour que ce soit en bon état. J'invite tous les présidents africains qu'ils soient très vigilants pour éviter cette catastrophe naturelle. C'est ce que je voulais vous dire.
Mmh. Alors, par exemple, hein, tout à l'heure, on a eu un auditeur du Congo-Brazzaville, Jérémy, qui nous disait que la population dans son pays aussi évite, par exemple, de s'installer près des rivières. Comme ça, en cas d'inondation, il se retrouve quand même un peu protégé. Qu'en dites-vous ? Est-ce que les populations aussi ont leur part à faire ?
Ok, les populations on leur part à faire, c'est ça. Il n'y a pas de problème.
D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'on a un autre auditeur au bout du fil? Alors, on a Éloge Kiayo qui est en RDC à Lubumbashi. Bonsoir, Éloge.
Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, comment cela se passe dans votre pays au lendemain d'une catastrophe naturelle?
Déjà, on appelle ça catastrophe naturelle parce qu'on ne sait pas prévenir ça, mais ça peut arriver tout le temps. Mais ce que je vois qui n'est pas bien dans mon pays, c'est que le gouvernement n'est pas impliqué dans l'affaire. Normalement, il doit y avoir des sensibilisations parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut y avoir, prévoir des sensibilisations sérieuses à la population. Et après cela, quand les catastrophes est fini dans mon pays généralement, il n'y a pas d'implication du gouvernement, pas de prise en charge des sinistrés, c'est ce qui m'inquiète un peu. Et je sens que c'est vraiment général en Afrique, quoi.
Alors, quand vous parlez de sensibilisation, vous imaginez quoi, par exemple?
Oui, moi, je suis à Lubumbashi. Oui. Quand je vois, je pars dans la province de Lualaba, la ville minière, je vois les trésors artisanaux, comme on les appelle, qui travaillent peut-être au-dessus des maisons. Et après avoir créé des trous, les maisons s'effondrent. Donc là, il y a un problème sérieux. Donc il faut bien canaliser ces gens-là, leur interdire de creuser, même s'il y a des minéraux, de faire des explorations artisanales au-dessus des habitations.
Merci beaucoup, Éloge, pour votre témoignage. On va maintenant au Cameroun. On a Tidiane Botegeba au bout du fil. Bonsoir, Tidiane.
Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à tous les électeurs de la VOA.
Alors, Tidiane, est-ce que vous pensez que des mesures préventives pourraient mieux munir les populations africaines face aux catastrophes naturelles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
En tout cas, comme disait l'auditeur précédent, moi je pense que ça demande de la sensibilisation, hein, parce qu'il faut quand même sensibiliser la population et tout le danger. Et le risque que souvent vraiment donne ces catastrophes. Donc, je pense qu'en tout cas, l'État doit quand même jouer pleinement le rôle, surtout en utilisant, en tout cas, les gens de construire n'importe comment. Hein. Parce que, par ici, je prends l'exemple de la ville de Douala. Donc, il y a plusieurs zones ici, quand même des zones inondables. Mais voilà, l'État est. La commune et les communes, en tout cas, laissent les gens construire. Donc, n'importe comment. Donc, c'est pourquoi, à chaque saison pluvieuse, donc on a des risques quand même de pertes de vies humaines et de pertes quand même de matériel. Donc, l'État, je pense que l'État doit quand même jouer, en tout cas, un grand rôle. En tout cas, en interdisant les gens de construire dans les zones inondables. Donc, en passant par quand même des sensibilisations, hein, parce que souvent, en tout cas, chaque année, ici, à Douala, on a juste quand même, voilà, de perdre quand même des matériels.
Merci beaucoup, Tidiane. Et on va rester au Cameroun, puisqu'on a au bout du fil Marie-Jeanne Abega. Bonsoir, Marie-Jeanne.
Oui, bonsoir.
Alors, Marie-Jeanne, oui. Comment est-ce que vous percevez la gestion des catastrophes naturelles dans votre pays?
Bien évidemment, la gestion des catastrophes se passe d'abord par une sensibilisation. Mm-hmm. On sensibilise déjà les gens sur l'occupation des zones à risque qui sont les marécages et les pans de montagne. Et maintenant, lorsqu'il y a une catastrophe comme les inondations, comme les orages qui dévastent les maisons et autres, l'État a une direction au ministère de l'administration territoriale qui s'occupe de ce genre de situation. Donc, il s'occupe des sinistrés. On leur fait d'abord une cure psychologique pour essayer d'éloigner de tout ce qu'ils ont subi comme, frustration par rapport à ce qui leur est arrivé. Et maintenant, la direction s'occupe aussi des indemnisations et du recasement de ces sinistrés pour ceux qui ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens. Et il y a une espèce de prise en charge des besoins élémentaires de la famille pour subvenir à leurs besoins, parce qu'on les amène dans des zones de déportation, des zones de recasement où ils n'ont rien, ils n'ont pas de plantation, ils n'ont pas de maison. Ils vivent d'abord, parfois ils vivent d'abord sous les tentes. Donc on les appelle ici les déplacés. Mm-hmm. Donc nous, on pense que avant de gérer une catastrophe, on devrait d'abord sensibiliser les gens sur ces dangers. Parce que lorsque les gens construisent dans les marécages, si les États sont indifférents, ça veut dire qu'un jour, ces États savent qu'ils iront gérer quelque chose à cet endroit. C'est pour ça que dans notre pays, le Cameroun, on passe d'abord par les sensibilisations et on déguerpit les gens avant même que le sinistre n'arrive. Mais il y a toujours des récalcitrants.
Bah oui, parce qu'à vous écouter, on dirait que vous êtes assez satisfaite de cette prise en charge.
Bon, j'ai jamais eu la prise en charge, mais je suis de la société civile et je suis aussi enseignante. Ça veut dire que je suis de près cette actualité parce que je suis de ceux qui sensibilisent les gens sur ces dangers environnementaux. Mmh.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre point de vue. On va maintenant passer la parole à Junior Kinombé qui est en RDC. Bonsoir Junior.
Et bonsoir madame.
Junior, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion des catastrophes naturelles dans votre pays?
Je suis satisfait parce que vous voyez, même ici en RDC, nous sommes vraiment les victimes de ces inondations-là. Parce que au niveau même des capitales de notre pays, ça dérange beaucoup les habitants. Vous voyez, il y a tant de morts. Il y a tant de maisons qui se sont coulées avec ces inondations-là. Alors, si les pays arrivent, les gouvernements arrivent à prendre à charge et des mesures adéquates pour lutter contre cette pratique-là, moi, je suis très heureux parce que ça lutte contre nos compatriotes qui souffrent. Je suis très heureux sur ces mesures-là.
Alors, au lendemain d'une catastrophe naturelle, ce qui est souvent très très difficile, c'est l'organisation des secours, parce que les infrastructures sont parfois détruites et les secours ont du mal à arriver aux populations sinistrées. Comment est-ce que vous percevez le travail des secouristes après ces catastrophes naturelles?
N'arrive pas aux personnes sinistrées parce que peut-être il y a d'une part la mauvaise volonté de la part des gens qui aperçoivent ça. Pourrais-je dire les secouristes ou bien le gouvernement ou bien je ne sais pas comment ça se passe là, mais je juste crois que non, c'est la mauvaise volonté de la part de ceux qui aperçoivent cette aide-là. Alors, comme ça n'arrive pas, il faut qu'il y ait la transparence et la bonne volonté de la part de ceux qui aperçoivent ça pour que les sinistrés puissent en percevoir l'aide provenant des donateurs comme il faut. Moi, je trouve.
Alors, un autre problème qui a été soulevé à plusieurs reprises dans cette émission, hein, c'est le fait que les populations aussi sont bien souvent installées dans des zones que l'on sait dangereuses. Comment l'expliquer? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Et bien sûr, mais je pense que c'est la réalité aussi des gouvernements, parce que le gouvernement doit commencer premièrement par la sensibilisation. Le gouvernement doit commencer à sensibiliser le petit peuple que non, ils ne doivent pas construire dans des endroits risqués. Et après la sensibilisation, ils doivent procéder aussi par les mesures, les sanctions, en sanctionnant tous ceux qui font et qui vont s'entêter contre cette loi-là. Et s'ils vont commencer à sanctionner, j'espère que les petits peuples n'arriveront plus à le faire. Parce que s'il y a un laisser-aller, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas une sensibilisation. Et les petits peuples n'arrivent pas à comprendre que non, il y a un danger à construire des maisons, des milieux risqués là. Alors, bon, le petit peuple n'a qu'à construire parce qu'il trouve un espace un peu fuit de là. C'est pourquoi le gouvernement doit prendre ses responsabilités.
Merci beaucoup Junior. On va rester en RDC. On a au bout du fil un de nos habitués. Il s'agit d'Alphonse Mbouaki. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir madame.
Alors, oui, allez, on vous écoute. Vous êtes prêt alors.
Madame, si ces gens-là construisent dans un endroit non habitable, c'est parce qu'ils sont pauvres. Oui. Alors, c'est pourquoi mon gouvernement actuel ici veut lutter contre la corruption. Si l'État engrange beaucoup de revenus nationaux, je pense qu'il va essayer de s'attaquer à ce problème d'urbanisation des villes. Vous savez, nos villes ne sont pas vraiment véritablement urbanisées, on ne respecte pas les normes. Alors, si l'État avait une bonne politique de lotissement ou bien de construction d'urbanisation, alors il va installer des sites où il y a des maisons préfabriquées, des logements sociaux, dans des terrains habitables. Il va installer des populations et ils seront en sécurité. Mais si la population construit en bas là-bas, en bas des montagnes, bord des rues, bord des rivières, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Parce qu'aller acheter là où c'est habitable, c'est coûteux. Alors donc moi je pense que c'est la population n'est pas vraiment en partie responsable, mais c'est l'État qui pousse la population à arriver là-bas. Les ministres, les maires, l'occupent sur le terrain, distribuent les parcelles sur le terrain, sur les versants, sur les pentes, la population, comme elle est pauvre, ils achètent là-bas. Donc, moi, je pense que la responsabilité, grande responsabilité, c'est en partie à l'État. Il faut combattre la corruption ici en RDC. Si on a les moyens, en tout cas, le gouvernement va vraiment s'attaquer à toutes ces choses-là. Le secteur santé, le secteur éducation, à tous les niveaux, le secteur logement. Je pense qu'on va combattre on va s'attaquer à ces problèmes d'inondation, à ces problèmes. Et à part cela, il faut aussi, au niveau international, à tous les niveaux, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Si on lutte, si on s'attaque à cela, je pense que ça peut résoudre aussi ces problèmes-là d'inondation, s'il y a la désertification, c'est à cause du déboisement ici.
Ah, on a perdu Alphonse. Alors peut-être très très rapidement, on peut passer la parole à Nzinga Kiangala qui est en Angola. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que vous évaluez la gestion des catastrophes naturelles dans votre pays?
La gestion des catastrophes naturelles, c'est vraiment une préoccupation majeure. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est lié à la pauvreté, à la corruption qui se vit dans nos pays africains. Et d'autre part aussi, les grandes puissances ont une grande responsabilité à ce qui se passe maintenant là. Parce que l'Afrique n'est pas un continent industrialisé, premièrement. Oui. Ça, on doit vraiment l'assumer, c'est vraiment comme ça. Et si aujourd'hui il y a réchauffement climatique, c'est parce que certains pays qui ont détruit la couche d'ozone qui provoque aujourd'hui ce réchauffement climatique. Mais nous là maintenant, on est des victimes de ce qu'on n'a jamais commis.
Voilà, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les auditeurs pour votre participation. À la production, c'était Joselle Morissin et Firmin Koyaweda. Présentation, Morgane Guériec. À très bientôt.